Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va prendre la parole de Dieu et j'aimerais qu'on continue sur le disciple accompli. Donc ce sera le deuxième message. Et je crois vraiment qu'on veut se laisser encore interpeller par le Seigneur à ce sujet, hein, pour devenir vraiment des disciples et pas seulement des croyants, pas seulement des gens qui adhèrent à une foi ou à un discours, mais des gens qui sont vraiment disciples du Seigneur Jésus. Et la dernière fois, on avait partagé ensemble à ce sujet, donc d'être un croyant ou un disciple. Et on a vu que ce que le Seigneur recherchait, c'était pas seulement des gens qui adhéraient et qui se convertissaient, mais des gens qui devenaient des disciples. Et l'ordre de mission que nous avons, c'est de faire des disciples et d'enseigner les gens à observer ce que Jésus a prescrit. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, on a commencé à voir ensemble que si on voulait être un disciple, il y avait aussi des conditions. On avait vu que pour être un disciple, l'apôtre Paul utilisait certaines images, et notamment des parallèles avec les sportifs dans 1 Corinthiens 9. Où il montre que non, on s'impose une certaine discipline, on s'impose des choses parce qu'on a en vue quelque chose et que les gens courent pour un prix terrestre et corruptible, mais nous courons pour quelque chose d'incorruptible. Puis on a vu également dans 2 Timothée 2 qu'il compare ça au fait d'être un bon soldat, un soldat qui ne s'occupe pas ou qui ne se préoccupe pas de ses affaires, mais qui s'occupe de ce pourquoi il a été engagé. Et qui est au service de celui qui l'engage. Et nous sommes engagés aussi, nous sommes enrôlés par le Seigneur, et il est important que nous réalisions vraiment pourquoi nous sommes sauvés et qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie et le désir de Dieu pour nous. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons des disciples de Jésus. Et un disciple, à un moment donné, il doit ressembler, et non seulement ressembler, mais devenir comme son maître. Et je vous rappelle ces deux passages, on va les reprendre dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Et au verset 40, où il est parlé du disciple, Luc 6, 40, et il est dit ici, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et l'autre passage que j'avais pris en parallèle, c'est dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 17, où il est écrit, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Donc en fait, nous pouvons et nous devrions être comme Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous désirons faire. Et si on a un objectif, eh bien, il est important de se positionner aussi et de faire en sorte que l'objectif qu'on se fixe puisse s'accomplir. Et on va prendre un passage dans l'évangile de Luc, toujours, Luc 14. On va prendre à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer ? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce sont des paroles de Jésus et elles peuvent paraître un peu dures. Okay, on va reparcourir plusieurs choses, mais remarquez que nous disons souvent et nous disons facilement que oui, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est vrai. Mais vous savez, quand Jésus ici parle du sel, c'est pas par hasard que ce verset tombe ici. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? il vient ici, c'est parce qu'il se rattache à ce qui vient d'être dit précédemment. Et précédemment, Jésus parle du fait d'être un disciple. Donc si nous voulons avoir de la saveur dans ce monde, si nous voulons être vraiment le sel de la terre, eh bien il est indispensable pour nous que nous soyons des disciples. Des disciples. Donc, reprenons verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc Jésus, il y a beaucoup de gens qui le suivaient. Et d'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous verrez que souvent, il y a la foule quand Jésus est quelque part. Et les gens le suivent assez facilement. Mais plusieurs fois, Jésus va les mettre face à leurs responsabilités. Même quand les gens le suivent après qu'il ait multiplié le pain pour eux, les gens vont le suivre. À un moment, Jésus va leur dire, mais vous pensez qu'à manger pour vous, pensez qu'à votre ventre, alors que c'est le pain du ciel dont vous avez besoin. Et les gens ne comprennent pas, les gens sont confus. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait un intérêt aussi quelque part. Et Jésus, il a des grandes foules qui le suivent, mais à un moment donné, il se retourne et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc là, Jésus donne des indications sur comment il est possible d'être un disciple. Parce qu'en fait, en disant qu'il ne peut l'être, ça veut dire que pour l'être, il faut faire le contraire. Okay? Donc ici, Jésus demande des choses qui paraissent lourdes et importantes. C'est-à-dire, il faut me préférer à vos pères, vos mères, vos femmes, vos enfants, vos frères et sœurs, et même à votre propre vie. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui préfère son maître à sa propre vie. Et à sa propre famille, à ses propres frères et sœurs. Donc, non pas qu'il ne faille pas aimer nos familles. D'accord? Il y a certaines versions aussi où il est rendu, si quelqu'un me suit sans haïr son père, sa mère, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est pas qu'il faut nous séparer de nos familles. Parce qu'il y a d'autres abus ou excès selon lesquels voilà, nos familles n'ont plus d'importance, il faut s'en isoler et suivre le Seigneur Jésus. C'est pas ce que Jésus a demandé. Mais ce que Jésus demande, c'est de le suivre et de le préférer. C'est-à-dire que notre amour et notre engagement pour Jésus doit passer avant et au-delà quoi que ce soit d'autre dans nos vies. Donc nous devons aimer nos familles, nous devons prendre soin d'elles. D'ailleurs, la Bible donne des indications à ce sujet. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre Maître, donc Jésus, a la première place au-dessus de toutes ces choses, et même avant notre propre vie. Et verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Donc il faut suivre Jésus pour être son disciple. On ne peut pas être son disciple seulement en le suivant comme ça, en disant « Oui, je marche avec Jésus, Jésus me fait du bien. » Non, nous avons besoin de suivre Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bout de ce qu'ils désirent faire parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à payer un prix. Hein. Même dans des choses naturelles, je veux dire, quand vous avez un projet, bien souvent, vous êtes prêt à faire des concessions, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à renoncer à des choses et à mettre des priorités pour l'obtenir. Et nous avons besoin aussi, en tant que chrétiens, bien aimés, d'être vraiment des disciples et de payer le prix du disciple. Verset 28, je reprends. « Lequel de vous, s'il veut bâtir, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Et là, c'est comme si le Seigneur nous dit « Bon, ok, vous êtes venu à moi, vous avez cru. » Vous êtes des croyants. Maintenant, il faut aussi calculer la dépense. Et réfléchissez. Il y a un engagement qui est là. On ne prend pas ça à la légère. Hein? Quand on a un projet, en général, on calcule. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux? Etc. Et c'est exactement ce qui nous est donné là. Il y a l'exemple de construire. Hein? D'abord, on s'assied, on voit si on est capable. Parce que si on commence et qu'on finit pas, les gens vont se moquer. Ou bien un roi ne va pas aller au combat alors qu'il sait qu'il est largement... inférieur, il va plutôt aller demander la paix. Et c'est ce qui paraît normal. Donc, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Et verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. » Donc là, il y a des paroles très claires du Seigneur Jésus au sujet du disciple. Hein, ça va coûter quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et de glorieux et de puissant qui est devant nous. Hein, parce qu'un disciple doit être comme son maître, et je vous rappelle qu'on est appelé à être semblable à lui, et ça va se voir dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, et c'est quelque chose de puissant. Parce qu'être comme lui, ça veut dire refléter les mêmes choses, mais ça veut dire aussi, et je l'ai déjà mentionné dernièrement, que les mêmes choses qu'il a faites, nous les ferions, et il dira même que nous en ferions des plus grandes. Et je crois que tout le monde aimerait avoir les mêmes résultats que Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas connu l'échec. Hein. Quand Jésus priait pour quelqu'un, le quelqu'un était forcément guéri, forcément délivré. Il y avait de la puissance. Quand Jésus prononçait une parole, il y avait un effet. Ça s'accomplissait. Et nous pouvons avoir les mêmes résultats, bien-aimés. Nous pouvons avoir cette puissance. Nous pouvons être vraiment des disciples et des témoins, mais pour ça, il faut justement être un disciple. Et il y a un prix à payer. On ne peut pas prendre les choses avec légèreté et s'imaginer que tout d'un coup, on peut avoir des résultats. Hein? Faut pas non plus se tromper. Il faut quand même être un peu intelligent. D'accord? Et là, le Seigneur nous dit, attention, calculez la dépense. Et le but ici, c'est pas de nous décourager à commencer à faire quelque chose ou à aller de l'avant, mais il nous fait prendre conscience et il appelle un engagement de qualité. En disant, est-ce que tu veux vraiment t'engager? Quand on vient à Jésus, bien sûr, il nous accueille, il nous sauve. Mais lorsqu'on dit, ouais, je veux servir Dieu, ou bien je veux voir la puissance dans ma vie, ou je veux voir des miracles, à un moment donné, on est là devant cette question, et dire, mais est-ce que tu calcules la dépense? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais l'objectif, c'est pas de nous faire changer d'avis ou de dire, non, moi, je pourrais pas, c'est trop cher. L'objectif, c'est de nous faire prendre conscience et que notre engagement, nous prenions un engagement de qualité. On dit parfois que dans les contrats, il y a des lignes écrites en tout petit qu'il faut lire, hein, auxquelles il faut faire attention. Et vous savez, le Seigneur n'a pas mis de clauses un peu bizarres ou de clauses cachées. Hein. Tout est écrit. Hein, et il nous fait agir en connaissance de cause. Donc autant il nous parle de bénédiction, de puissance, de gloire, de choses formidables et auxquelles nous devons aspirer. Mais il ne nous cache pas que pour vivre ces choses, pour être vraiment des disciples, pour voir vraiment sa puissance et devenir l'église glorieuse qu'il vient chercher et que nous devons être, eh bien, il y a aussi des conditions à remplir, il y a un prix à payer, il y a des choses qui sont peut-être pas toujours faciles ou évidentes, mais qui nous ouvrent la porte à la bénédiction. Hein, parce que le royaume de Dieu est fait de principes et il y a des choses que nous devons observer et dans lesquelles nous devons nous conformer pour vivre la bénédiction qui s'y attache. Et là, il nous est dit de calculer la dépense. De calculer la dépense. Est-ce que vous voulez vraiment devenir un disciple du Seigneur Jésus? Pas seulement quelqu'un qui est juste sauvé ou juste un croyant, mais un vrai disciple. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre vie, à ne plus être votre propre maître, mais à laisser Jésus devenir le maître de votre vie? À le laisser lui, à le préférer lui au-dessus de toutes les autres personnes et au-dessus de vous-même? Vous savez, ça vaut vraiment la peine de payer ce prix-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Et les sportifs, les athlètes qui réussissent et qui gagnent un prix ou une médaille, ils sont vraiment satisfaits, ils sont heureux et ils se disent ça valait la peine de vivre de telle ou telle façon parce que aujourd'hui il y a une satisfaction et c'est seulement corruptible. Mais nous visons quelque chose de beaucoup plus incorruptible, de beaucoup plus puissant. Et j'ai envie de vous dire que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment le coup. Faut pas qu'on ait peur ou qu'on s'assujettisse ou je sais pas quoi. Hein. Ce que je vous partage là au sujet du disciple, c'est pas pour vous mettre sous un joug ou pour vous faire peur ou pour vous limiter. Non, nous avons été libérés et suivre Christ et être son disciple, c'est quelque chose de puissant. Et même si ça peut paraître contraignant, en réalité, c'est bien sûr humainement ou charnellement, c'est des contraintes. Mais dans l'esprit, eh bien, ce sont des clés qui nous ouvrent la porte à la bénédiction, à la liberté, à la puissance à laquelle nous aspirons. Et vous ne pourrez jamais vous accomplir, vous ne pourrez jamais remplir la destinée pour laquelle vous êtes né sans payer un prix et sans devenir un disciple, un vrai disciple. Quel que soit le prix, je veux vivre comme toi Seigneur, penser comme toi, parler comme toi, agir comme toi, être une source de bénédiction comme toi. Et si vous passez du temps avec lui, ça va se manifester de plus en plus. De plus en plus. Et, d'accord, et on ne s'engage pas à la légère. Parfois, les gens s'engagent un petit peu comme ça, facilement. Mais là, encore une fois, dans ce passage, il nous est dit, bon, tu ne vas pas construire une tour ou tu ne vas pas à la guerre sans d'abord regarder un petit peu où tu en es, sans considérer ta situation. Et nous avons besoin d'être sages aussi. Si tu décides de suivre le Seigneur Jésus, de le servir ou d'être son disciple, eh bien, il faut le faire totalement. On ne peut pas être à moitié. Dans l'Apocalypse, à un moment donné, il est dit que si tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À un moment, il faut choisir. C'est soit on est complètement avec le Seigneur, ou soit on n'est pas du tout avec le Seigneur. Mais on ne peut pas être moitié-moitié, mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, et y compris dans le monde chrétien, si on peut dire, ou dans les églises, on a l'impression qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en étant un petit peu à moitié. Hein, il y a des compromis qui se font, il y a des choses terribles. Et même quand on regarde certains styles d'église qui existent où tout est permis, tout se fait un petit peu. Enfin, parfois c'est effrayant de voir ce qu'il existe et ce qui se fait par des soi-disant chrétiens et au nom d'une soi-disant liberté. Mais vous savez, le moment vient où, comme dit la parole, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, parce que c'est pas seulement sur un discours, mais c'est un engagement réel et de qualité qui doit exister. Parce qu'être théologien, être religieux, tout le monde est capable. On est tous capables d'être des chrétiens au sens religieux, mais est-ce qu'on est tous des disciples? Et c'est là que la question se pose. Et quelquefois, on prend des engagements, ou bien on fait ce qu'on appelle les résolutions du début d'année, tout ça. Et parfois, on place la barre trop haut. On se dit, je veux faire ci, et on n'y réfléchit pas à tout ce que ça va engendrer comme engagement et comme discipline. Et très rapidement, on lâche la chose. Et on laisse, et parfois on commence, mais on finit jamais. Et on a besoin de prendre conscience de quel engagement nous prenons et de s'engager sur des choses qu'on peut tenir. Hein? Et vous savez, même si nous disons que nous faisons quelque chose par la foi, c'est pas hasardeux, c'est pas une supposition ou une bonne idée ou je sais pas quoi qui doit nous motiver. Hein? Notre motivation et notre foi doit s'appuyer sur la volonté de Dieu, sur une parole révélée de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc on a besoin de vraiment s'appuyer sur une parole de Dieu qui devienne une parole révélée en nous. Parce que si vous n'avez pas une parole de Dieu sur laquelle vous appuyez, vous n'aurez jamais une vraie foi. Ça doit être une espérance, ça doit être une bonne intention, ça doit être une motivation, mais au bout d'un moment, ça va s'estomper. Parce que ce qu'il faut, c'est de la constance et de la fidélité. Et quand il y a des difficultés, vous persévérez parce que vous vous appuyez sur une parole de Dieu, parce que vous savez où vous allez et vous avez déterminé votre cœur à marcher avec Dieu. Et on a besoin de vraiment déterminer nos cœurs à être des disciples, en sachant qu'on a une promesse, en sachant que même si aujourd'hui c'est difficile, je sais que je vais devenir semblable à lui, je vais être comme le maître et la puissance de Dieu va se manifester. Tout à la fin des évangiles, on nous donne l'ordre de mission de Jésus à ses disciples en disant « Allez, faites des disciples, etc. » Et il est dit que le Seigneur travaillait avec eux en confirmant sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et en fait, Dieu confirme sa parole, d'accord ? Il confirme pas quoi que ce soit que nous pouvons mettre en place, il confirme sa parole. Donc on a besoin vraiment de prendre des engagements de qualité, mais de suivre la parole de Dieu, de confirmer notre vie à sa parole, de confirmer nos actes à sa parole, d'entrer dans les œuvres que lui a préparées pour nous, en étant vraiment des disciples. On ne peut pas seulement vouloir faire des choses qui nous paraissent bien, ça c'est être le maître de notre propre vie. Mais si nous sommes des disciples, nous passons du temps avec Jésus, nous cherchons sa volonté et nous entrons dans les œuvres que lui, il a préparées pour nous. Et là, il va manifester sa puissance. Donc, c'est important de voir où nous allons et de mesurer notre engagement. Et de prendre un engagement de qualité. Au verset 33, il est dit « Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Donc ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne doit rien posséder. Parce qu'ailleurs dans la parole, on a des promesses sur le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins, sur le fait qu'il nous donne et avec abondance. Bien sûr, Dieu veut que nous possédions des choses. Mais ce que nous possédons ne doit pas nous posséder. Et de la même façon qu'au verset 26, il parle des membres de nos familles, que nous devons préférer le Seigneur aux membres de notre famille. Ça ne veut pas dire que nous devons, encore une fois, nous séparer ou mépriser ces gens-là, mais ça veut dire que nous mettons Dieu à la première place. Dieu à la première place. Et quand Jésus nous dit « Suis-moi », on le suit. Hein? Je vous rappelle, comme on l'avait dit, que lorsque Jésus a dit « Suis-moi », eh bien, les disciples l'ont laissé, soit leur filet, là où ils étaient, pour ceux qui étaient des pêcheurs, soit leur poste de travail. Pour par exemple Matthieu qui était en train d'encaisser des choses, il a laissé son poste, il a suivi Jésus. Et on a vraiment besoin de suivre le Seigneur et de le mettre à la première place. Ça c'est ce qu'appelle notre engagement en tant que disciple. Parce que si nous ne sommes pas prêts à ça, on ne peut pas vraiment être un disciple. Et je vous invite à regarder avec moi dans Luc 9, au verset 57. Luc 9, 57. « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, ce que le Seigneur nous montre, c'est que, pas qu'on ait des bonnes excuses, hein. Le Seigneur nous demande de faire un choix, et un choix clair, et un engagement clair et total. Hein, il nous dira, si on met la main à la charrue, mais qu'on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, il faut réfléchir à un moment donné. Et si aujourd'hui nous décidons, et nous cherchons à faire la volonté de Dieu, à marcher avec lui, à voir sa puissance, à être un disciple, pour être comme lui, et entrer dans ses buts sur la terre, eh bien, il faut aussi que nous prenions conscience que ce n'est pas quelque chose de léger. C'est pas aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai plus envie. Jésus nous dit, si tu mets à la main à la charrue mais que tu regardes en arrière, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Donc autrement dit, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il ne peut pas entrer dans les choses que Dieu a préparées pour lui. Comme vous voyez dans ces passages, à chaque fois que les personnes donnent une excuse à Jésus, ils disent, laisse-moi d'abord, verset 59, ensevelir mon père, ou laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison, verset 61. Non, la première chose, c'est de suivre Jésus. C'est pas d'abord faire telle chose, non. À un moment donné, tu prends tes dispositions et tu deviens un disciple, ou pas. Mais évidemment, il est mieux de devenir un disciple de Jésus. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose de sérieux. Vous savez, on se fait facilement appeler des chrétiens, mais ce nom de chrétien, hein, il a été donné aux gens pour la première fois parce qu'on trouvait qu'il ressemblait à Christ. Et chrétien, ça veut dire petit Christ. D'accord? Mais c'est pas un titre que les gens ont pris comme ça. Si vous vous dites chrétien, en principe, ça veut dire que vous ressemblez à Christ. Et que quand on voit Christ. Mais pour ça, on a besoin de renoncer à nos affaires, hein, pour s'occuper des affaires de notre Maître et de notre Seigneur. Et vous savez, même Jésus, quand il était encore jeune et qu'il était à Jérusalem, à un moment donné, ses parents vont le chercher partout. Et quelle réponse il va donner? Il va dire, est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc pour lui déjà c'était une priorité, hein, d'enseigner les gens, d'être dans le temple, de faire l'œuvre de Dieu, alors même qu'il était un enfant, parce qu'il savait, il avait ce sentiment de destinée, il savait j'ai des affaires à faire, j'ai un appel de Dieu. Et il n'a pas méprisé ses parents pour autant, mais il avait des priorités. Et nous devons mettre la priorité et regarder toujours en avant, hein, ne regardez jamais en arrière. Quand vous vous êtes engagé avec le Seigneur, ne regardez pas ce que vous avez laissé. Parce que des fois les gens aussi... Dans certains témoignages, c'est parfois un peu dommage parce que, entend les gens dire, oui, moi j'avais ci, j'ai laissé ça, tatata, mais ils ont presque un son nostalgique. À un moment donné, vous y renoncez, c'est même plus dans votre pensée, c'est plus votre... Non. J'ai fait ça parce que je suis disciple du Seigneur et je veux le suivre et je sais que je vais avoir meilleur. Mais on peut pas être là à regretter, à dire, ah ouais, mais avant je pouvais faire ci, maintenant je ne peux plus faire ça, avant j'avais ça, maintenant j'ai plus ci. Non. Il y a un choix très clair qui doit se faire à un moment donné. Et ça dit, si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière, sinon tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Donc c'est un engagement de qualité et définitif qu'on doit prendre, sans regretter, sans après revenir dessus, mais prendre un engagement et suivre le Seigneur. Et vous savez, si vous regardez de l'avant, sincèrement, vous n'avez même pas envie de regarder de nouveau ce qui s'est passé derrière. Parce que quand vous regardez devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus vous montre l'objectif, il vous montre où il vous emmène. Il vous fait connaître son plan, son image glorieuse. Et nous savons qu'au bout, la destination, c'est qu'on soit semblable à lui. C'est qu'on soit à la même dimension, à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme dit la parole de Dieu. Et ça, c'est excellent. Et quand vous avez ça en vue, je veux vous dire que vous ne pensez même pas à regarder ce que vous avez laissé derrière vous, parce que vous savez que ce vers quoi vous vous portez, c'est largement meilleur. Amen. On ne regarde pas en arrière, mais on s'engage vraiment et on va de l'avant. C'est si le Seigneur vous a dit « Suis-moi », il n'y a vraiment rien de meilleur pour vous. Et je vous encourage à ne pas vous poser trop la question. Au sens où si vous l'avez suivi, ben suivez-le et allez-y totalement. Et regardez à ce qu'il a préparé pour vous. Prenez sa parole, passez du temps dans sa présence, il va vous faire connaître. Et vous allez voir que c'est la meilleure chose que vous ayez jamais pu faire. La meilleure chose. Et que ce prix à payer... En fait, c'est pour votre bénédiction, c'est pour votre bien. Et malheureusement, de nos jours, c'est vrai que tout ce qui est sacrifice, c'est pas tellement à la mode, hein, mais le Seigneur, lui, veut nous faire aller de l'avant, veut nous faire entrer dans les choses qu'il a préparées pour nous, et donc ça demande à ce qu'on se discipline. Comme un athlète, il y a une forme de souffrance, mais on sait qu'il y a un prix au bout, on sait qu'on va quelque part. Et c'est important de vraiment suivre les plans de Dieu et entrer dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Et ça va être vraiment une bénédiction. Et vous savez, on ne peut pas comparer ce qu'on aura. Parce que le Seigneur nous appelle vraiment à payer ce prix-là, à renoncer quelque part à ce que nous avions, mais en sachant qu'on va vers quelque chose de largement meilleur, de largement meilleur. Soyons suffisamment déterminés à marcher avec lui, à être des disciples. Le Seigneur nous appelle, vous savez, à être ses disciples, il nous y appelle, et c'est ce qu'il désire pour nous. Il faut dire que c'est vraiment la voie de la bénédiction, et la voie de la puissance et de la prospérité à tous égards. Là, il y a des promesses formidables dans la parole de Dieu, des promesses extraordinaires, et nous devons vraiment désirer les suivre et marcher dans les plans qu'il a formés pour nous, parce que c'est comme ça qu'on ira vers le succès. Mais il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à notre chair. Ce que Jésus dira aux disciples qui étaient avec lui au jardin de Gethsémané, alors qu'il leur a demandé de veiller avec lui, il leur dira « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est vrai que bien souvent, nous sommes bien disposés, mais notre chair est faible. Et vous savez, Jésus lui-même a eu des moments où c'était difficile, des moments de doute, de trouble, parce que c'était aussi lourd le prix qu'il devait payer. Il savait qu'il était venu pour se donner en sacrifice, pour sauver l'humanité. Mais ça n'a pas été de toute facilité pour lui. Il a aussi eu quelque part un combat. Et je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu. Matthieu 26, on va prendre à partir du verset 30. Matthieu 26, 30. « Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers, le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans ce passage, on peut voir plusieurs enseignements. Déjà, d'une part, on voit Jésus qui est là avec ses disciples, qui leur annonce ce qui va arriver et qui va éprouver une situation où il est dans l'angoisse, dans la tristesse. Et il va demander à ses disciples de veiller avec lui. Donc Jésus lui-même, qui pourtant était venu avec une mission et qui allait donner sa vie et qui était largement déterminé à faire la volonté de Dieu, à un moment donné, il va éprouver de la tristesse, de la difficulté devant ce qu'il attend. Et la Bible nous dit qu'il va prier en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc Jésus va vraiment soumettre sa volonté à celle du Père. Et un petit peu plus loin encore, il refait la même prière et il va encore une fois dire, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que ta volonté soit faite. » Donc il va toujours mettre la volonté de Dieu à la première place. Et encore une fois, il fait cette même prière et la Bible nous montre que Jésus est vraiment dans une situation où c'est difficile pour lui, mais il est déterminé à faire la volonté du Père. C'est difficile, il est dans la tristesse, mais il va faire la volonté de Dieu, il va dire « pas ma volonté, ta volonté ». Et nous qui sommes ses disciples, nous devrions présenter les mêmes caractéristiques. À un moment donné, nous devons être vraiment déterminés à être ses disciples, à le suivre et à faire sa volonté, même quand on doit être un peu anxieux, quand ça doit être difficile pour nous, quand ça doit nous défier. Eh bien, non, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Ta volonté, mais pas la mienne. Autre chose que j'aimerais que vous remarquiez ici au sujet de Pierre, quand Jésus annonce ce qui va arriver, Pierre va lui dire au verset 33, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. » Et ensuite au verset 35, « Même si je devais mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Donc Pierre là fait des belles déclarations et en fait il prend un engagement. Il dit au Seigneur, « Mais quoi qu'il arrive, je suis là, tu peux compter sur moi, je ne te lâcherai pas Seigneur. » Et il nous est dit là que tous les disciples dirent la même chose. Donc il avait une bonne disposition, il avait quelque chose qui était bien vis-à-vis du Seigneur. Il dit, « Seigneur, je ne te lâcherai pas, quoi qu'il arrive, même si je dois mourir, je mourrai. » Mais juste après, on voit déjà un petit peu cet engagement qui est mis à l'épreuve lorsque Jésus emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée pour aller prier. Il va leur dire, « Veillez avec moi. » Et qu'est-ce qui se passe? Il revient et il les trouve endormis. Des gens qui se disaient auparavant prêts à mourir pour lui, à tout faire, à ne pas le lâcher, quelques instants plus tard, il leur demande simplement de veiller avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Plus tard, on verra en suivant l'histoire, et c'est bien connu que Pierre va effectivement renier Jésus pendant 3 fois, comme Jésus le lui avait annoncé. Pourtant, il avait pris une belle décision, un bel engagement, et même une belle déclaration publique. Mais à un moment donné, les belles déclarations, les beaux engagements, à eux-mêmes ne se suffisent pas. À un moment donné, ça va être mis au défi. Et c'est là qu'on vous attend, c'est là qu'est le rendez-vous. On peut dire, oui, je te servirai Seigneur, je ferai tout pour toi. Mais c'est au moment où il est question maintenant de servir, au moment où il est question d'obéir à l'appel de Dieu, au moment où il est question de poser un acte inspiré par le Saint-Esprit, qu'on verra si vraiment vous êtes prêt à être un disciple et que vous obéissez au Seigneur ou pas. Et moi, je désire vraiment que lorsque le Seigneur dit quelque chose, il me trouve prêt et il me trouve réactif à obéir et à faire ce qu'il m'a dit de faire, que ce soit ma volonté ou pas, que ça me fasse plaisir ou pas, que ce soit facile ou pas. Et ma prière et mon désir, c'est que vous aussi, chacun, vous deveniez vraiment un disciple du Seigneur, pour qui c'est la volonté du Maître qui compte avant tout, et un disciple qui est prêt à obéir et à entrer dans les œuvres de son maître, qui n'a pas seulement un discours, mais qui est réellement, qui tient réellement à ce qu'il dit, qui prend des engagements de qualité, qui prend des engagements en ayant conscience de ce qu'il dit et de ce dans quoi il s'engage, et puis qui va les tenir. Et ici, Jésus nous donne une clé quelque part. Parce que, vous voyez, Jésus qui lui-même, on a l'impression qu'il est un peu défié par rapport à ce qu'il va devoir faire pour obéir au Père, mais Jésus va dans la prière. Jésus ne se pose pas des questions, Jésus ne cherche pas un autre moyen de faire, Jésus prie. Il prie et il soumet à nouveau sa volonté à celle du Père. Ensuite, il dira au verset 40 à ses disciples qui se sont endormis, il dira, « Mais vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il y a là une clé que le Seigneur nous donne, parce qu'on peut prendre de bonnes décisions, dans notre esprit, on peut décider, je veux être un disciple, je veux te servir, je veux faire l'œuvre de Dieu. Mais comme disait quelqu'un, le plus grand ennemi, c'est pas le diable, le plus grand ennemi, c'est pas nos circonstances, le plus grand ennemi, c'est la chair. La chair en nous, c'est tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain. C'est tout ce qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Et bien souvent, charnellement, on n'a pas envie de certaines choses. On n'a pas forcément envie de s'engager. On n'a pas forcément envie de poser certains actes, on n'a pas forcément envie. Mais ce que le Seigneur dit, veillez et priez. Et là, il nous donne une clé pour qu'on puisse tenir nos engagements. Vous savez, dans ce monde, on a vraiment besoin de tenir des engagements. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui tiennent leurs engagements. Et l'Église et le Seigneur Jésus cherchent des hommes et des femmes qui sont vraiment des disciples et qui s'engagent totalement avec lui pour que son nom soit glorifié, pour que son œuvre se manifeste et pour que ses plans s'accomplissent. Donc, faisons-le, mais pour pouvoir tenir nos engagements, pour pouvoir associer non seulement des belles paroles, mais que nos paroles soient des réalités et que notre vie d'elle-même parle de notre engagement avec le Seigneur, il y a là une clé, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et vous savez, non seulement Pierre, par la suite, a renié Jésus, mais regardez au verset 35, il est dit, tous les disciples dirent la même chose. Et pas plus tard qu'au verset 56, il nous est dit « Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Donc, tous ceux qui sont en train de dire « Même si je devais mourir, je ne te renierai pas. » Quelques versets plus loin, alors qu'il s'est passé l'arrestation de Jésus, ils l'abandonnent et ils prennent la fuite. Donc ils avaient seulement des paroles, ils avaient seulement un engagement de parole. Mais en fait, il n'y avait rien derrière. Et ce que le Seigneur désire, encore une fois, ce n'est pas des gens qui parlent, qui ont des belles confessions de foi, qui ont des belles paroles, qui ont des beaux engagements. Ce sont des personnes qui tiennent leurs engagements. Ce sont des disciples. Bien-aimé, un disciple, c'est quelqu'un qui ne fait pas que parler. C'est quelqu'un qui reproduit l'exemple du maître. C'est quelqu'un qui obéit à son maître. C'est quelqu'un qui entre dans les œuvres qui sont préparées pour lui et qui reflète les qualités, les caractéristiques de son maître. Pendant que les disciples et Pierre ne tenaient pas leur engagement, Jésus, lui, il avait fait la bonne chose. Il s'était incliné dans la prière. Il avait dit, « Père, ta volonté et pas la mienne. » Une deuxième fois, « Père, ta volonté, pas la mienne. » Une troisième fois, « Père, ta volonté, pas la mienne. » Et c'était pas facile. C'était pas facile, bien-aimé. Et un autre récit qui nous rapporte cet épisode nous dira que Jésus a transpiré du sang. Tellement il avait une pression, tellement c'était difficile. Il avait un combat envers lui-même. Jésus a fait le bon choix et il a décidé de soumettre sa volonté à celle du Père. Et il a reconnu à ce moment-là que même lui-même n'en était pas capable. Et non pas qu'on peut jamais être défié ou même avoir un peu de doute ou être dans l'angoisse. Jésus dira même « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais il ne reste pas juste dans cet état et puis il laisse les choses passer. Il va dans la prière et il reconnaît. Le fait d'aller prier, c'est reconnaître que par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, j'y arrive pas, c'est trop difficile. Je tiens trop à mes biens, je tiens trop à ce que j'ai, je tiens trop à mes facilités. J'ai pas envie de lâcher prise. Je préfère faire ma vie, je préfère faire à ma tête, je préfère ma volonté. J'y arrive pas de moi-même. Mais quand tu pries, tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je reconnais. Et pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Parce que la Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc on a besoin de venir vraiment au pied de Jésus, de reconnaître qu'on ne peut pas, mais en même temps, que nous le reconnaissons, que nous nous soumettons à lui, que nous nous livrons entre ses mains, eh bien le Seigneur va commencer aussi à travailler dans notre vie pour que désormais on puisse. Hein, parce que son désir, ce n'est pas que de nous dire qu'on n'est pas capable sans lui et qu'on n'y arrive pas. Son désir, c'est que nous reconnaissions que nous ne pouvons pas sans lui pour maintenant nous qualifier afin de bénéficier de son aide. Parce que nous avons été établis sur terre pour être des disciples et pour porter du fruit. Et la parole de Dieu nous donne cette image dans les paraboles que, eh bien, si un pied de vigne ne porte pas de fruit, on le coupe et on le jette au feu. Mais si il porte du fruit, on l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous commencions à porter du fruit, peut-être même au niveau où nous en sommes, où nous pouvons penser que nous sommes insuffisants, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas assez bons, mais si nous prenons un engagement de qualité, une décision, avant de dire « Seigneur, j'accepte de renoncer à moi-même, de renoncer à ma vie, et peut-être même de renoncer à mes propres efforts, parce que souvent nous faisons des efforts pour essayer de faire l'œuvre de Dieu, pour essayer d'aider Dieu, mais renoncer à tout ça, et commencer à entrer dans ce que lui a préparé, mais petit à petit il va agir dans nos vies aussi pour nous parfaire et pour nous permettre de porter plus de fruits et pour être à son image et pour que son nom soit glorifié. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il faut qu'on se remette entre ses mains. Et on a besoin de renoncer, vraiment de payer le prix, de dire « Seigneur, je renonce à ma vie, je renonce à mes plans, je renonce à mes petites affaires. Seigneur, je viens me livrer à toi. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux être ton disciple, un vrai disciple. » Quelqu'un qui te suivra jusqu'au bout, quelqu'un qui va te refléter, quelqu'un qui va être comme toi, Seigneur, pour faire ton œuvre, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je suis déterminé. Et je n'ai pas seulement des paroles ou un discours, mais je me détermine, Seigneur. Je sais que je ne suis pas capable, mais je viens m'incliner devant toi maintenant. Je te donne ma vie, Seigneur. Je me dépose à tes pieds pour que toi, tu viennes maintenant me rendre capable de toute bonne œuvre, pour que toi, tu viennes me transformer, me changer. Et que petit à petit, justement, j'évolue dans ce chemin où je vais devenir de plus en plus conforme à ton image jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ à laquelle je suis appelé. Nous avons besoin de prendre ce pas. Et la dernière fois, nous avons vu qu'il ne suffisait pas seulement d'être un croyant, mais qu'il fallait aussi être un disciple. Et aujourd'hui, encore une fois, à travers ces quelques passages de la parole, on a pu voir que pour être un disciple, eh bien, il fallait renoncer à soi-même et payer un prix. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à payer le prix, à payer le prix. Accepter de venir au Seigneur et de dire « Seigneur, je dépose ma vie, j'abandonne Seigneur, je laisse ». Je suis sûr que si vous avez essayé d'être agréable à Dieu, si vous avez essayé d'être un bon chrétien, vous avez fait des efforts, mais je suis sûr et certain que vous vous êtes rendu compte que vous n'y arrivez pas par vous-même. C'est même que vous avez pris des résolutions à un moment donné. C'est-à-dire, je lirai plus ma Bible, ou je prierai un peu plus, ou bien j'irai plus régulièrement à l'église, ou bien j'écouterai plus la parole de Dieu, plus d'enseignements. Certainement qu'à un moment ou à un autre, il y a des engagements que vous avez voulu prendre, des bonnes résolutions, peut-être que vous aviez, mais vous vous rendez compte que par vous-même, vous n'arrivez pas à les tenir. Mais là, Jésus nous donne une clé, il nous dit « Veillez et priez ». Donc prenons un engagement de qualité, soyons dans la prière pour dire « Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, rends-moi capable, et Seigneur, je soumets ma volonté à ta volonté, et je suis là maintenant devant toi, je me consacre, je suis prêt, Seigneur, à payer le prix, Seigneur, quoi qu'il m'en coûte, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux être comme toi, Seigneur, que les gens qui me rencontrent, te vois, Seigneur, que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie, que je sois marqué par le sceau des fils de Dieu, qui est la gloire de Dieu sur ma vie, qui va venir impacter tous les domaines. Et moi-même, je serai béni, mais je serai une source de bénédiction pour les autres, et je vis dans l'optique du royaume de Dieu, parce que je suis là pour ça, je suis là pour voir ta gloire, je suis là pour annoncer l'évangile du royaume, et je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour toi, Seigneur, je suis un disciple. Mon désir pour vous et mon exhortation maintenant, c'est que vraiment vous mettiez devant le Seigneur, que vous réfléchissiez, comme il est dit, personne ne construit avant d'avoir calculé, mais qu'ensuite vous preniez un engagement de qualité. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous nous engagions. Prenez un engagement, dites-vous, Seigneur, je veux vraiment être un disciple, je suis prêt à payer le prix et je soumets ma volonté à la tienne, et demeurez dans la prière, parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir vos engagements. Vous-même, vous êtes faible, vos paroles ne... Vous ne pouvez pas les tenir vous-même, mais quand vous êtes dans la prière, que vous vous soumettez à lui, eh bien lui va vous rendre capable de tenir parole. Je vous encourage vraiment à prendre un engagement et à accepter de payer le prix pour être vraiment un disciple, pas seulement un croyant, pas seulement un religieux, mais un disciple du Seigneur Jésus, qui va montrer au monde et qui va amener au monde la révélation des fils de Dieu. Que nous puissions être des disciples et des disciples accomplis, qui soient semblables à lui. Maintenant encore, son appel résonne. Il nous dit « Suis-moi ». Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et la question qui l'accompagne, c'est « Es-tu prêt à payer le prix ? Es-tu prêt ?» En sachant vers quoi tu es destiné, en sachant que tu es une destinée glorieuse, que tu peux être semblable à lui, que tu peux voir sa gloire et vivre dans sa puissance et sa plénitude, mais es-tu prêt pour ça ? À laisser ta vie, à laisser ta médiocrité pour sa perfection, à laisser tes faiblesses pour sa force, à laisser ta maladie ou ta fragilité pour sa bonne santé, à laisser tes incapacités pour sa puissance, à laisser tout ce que tu es, tout ce que tu as, pour épouser ce qu'il est et tout ce qu'il a et tout ce qu'il a destiné pour toi. Es-tu prêt à laisser ta vie, à laisser ta volonté, tes plans, tes programmes, tes pensées, ce qui te semble cher et important, pour ce qui est vraiment important et essentiel ? Es-tu prêt à payer le prix ? Maintenant même, c'est l'occasion de répondre, chacun pour soi, et de venir devant le Seigneur. Es-tu prêt à payer le prix ?
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.